en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, En habit vert vous propose dans cette émission de dresser le portrait de Jean Bernard. Rappelons-le, Jean Bernard est né en 1907, décédé en 2006. Il était un hématologue de renom et apporta la preuve que les leucémies correspondaient à des cancers de la moelle osseuse avant de provoquer la rémission d'un patient atteint de leucémie, c'était en 1947. Jean Bernard a 75 ans lorsqu'il est élu à l'Académie des sciences en 1973. L'année suivante, il entre à l'Académie nationale de médecine avant d'être élu en 1975 à l'Académie française. Pourquoi l'Académie française ? Eh bien parce que pendant quelques temps, Jean Bernard hésite entre devenir médecin ou écrivain, et finalement pas sûr de son talent pour l'écriture, opte pour la médecine. Notre invité aussi a les deux casquettes, d'écrivain et de médecin. Il a travaillé pendant près de 30 ans auprès de Jean Bernard. Jean-Louis Michaud, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais à l'instant, à l'image du professeur Jean Bernard, vous êtes hématologue et entamé une carrière clinique et universitaire à l'Université de Lovanium. Vous avez séjourné 10 ans au Congo après votre thèse sur les immunoglobines des Bantous avant de revenir en Belgique pour devenir professeur à l'Université catholique de Louvain. À partir des années 70, vous poursuivez votre formation auprès du professeur Jean Bernard à l'hôpital Saint-Louis à Paris, et c'est le début d'une longue et fructueuse collaboration. Vous allez pouvoir dans quelques instants nous faire part de vos souvenirs le concernant. Auparavant, je précise que vous êtes aujourd'hui ancien chef du service d'hématologie des cliniques universitaires Saint-Luc et correspondant étranger à l'Académie nationale de médecine. Vous souvenez-vous, Jean-Louis Michaud, de votre première rencontre avec le professeur Jean Bernard ? J'imagine qu'elle s'est déroulée à l'intérieur de l'hôpital Saint-Louis.
Je peux vous dire que c'est d'abord ses écrits qui nous a permis de le connaître. En effet, en Afrique, nous étions abonnés à une revue qui s'appelait la Revue du praticien. Je ne sais pas d'ailleurs si elle existe toujours. Et cette revue avait des thèmes. L'hématologie, entre autres, était un thème fréquent et très souvent dirigé sous l'autorité de Jean Bernard. Et je me souviens très bien, dans le début des années 60, il avait déjà des écrits importants sur le traitement de la leucémie aiguë de l'enfant. Et c'est là ma première connaissance de Jean Bernard. Je l'ai rencontré puisque j'ai eu le plaisir et la chance d'entrer dans son service en 69. J'y suis resté quelques semaines et je me souviens très bien ce premier contact, ce premier accueil dans ce bureau où tout était minuté, mais on était reçu, on était réellement accueilli dans son service. Et directement, s'est produit ce premier contact heureux qui a fait qu'il s'est poursuivi pendant plus de 40 ans.
Alors, comment travaillait-on avec Jean Bernard ?
Écoutez, moi, j'y allais pour apprendre. Et j'y suis allé d'abord pour connaître ce qu'il se faisait dans le traitement de la leucémie à cette période. C'était le début des traitements structurés qui s'est structuré grâce au contact que le service de M. Jean Bernard avait avec les Américains du groupe Leukémia groupe B, et ces études se sont structurées au cours d'années fructueuses grâce au fait que Jean Bernard a été un maître de l'hématologie et il a fait une école. Et cette école a rassemblé quasi toute l'hématologie de France et de Navarre et de Belgique, ce qui fait que ce contact a été facile et fructueux parce qu'il a pu se construire grâce à toute cette équipe qu'il avait forgée autour de lui.
Mais alors, quel était son caractère en tant que professeur ou en tant que maître ?
C'était un maître. Vous faites bien de le souligner. Pourquoi était-il un maître ? Mais c'était un maître parce que, premièrement, il avait une large connaissance. Deux, il avait une grande sensibilité qu'il ne montrait pas, mais dont on le sentait. Et cette sensibilité faisait qu'il était accueillant. Il était ouvert à l'étranger. Ça veut dire qu'on savait qu'il pouvait vous accueillir dans son service et qu'il ne faisait pas de différence que vous veniez d'un pays étranger ou de France.
Vous faites référence à la Belgique ?
En particulier, en référence. D'ailleurs, il était très attaché à la Belgique. Il y venait d'ailleurs très souvent, très accueilli qu'il était. Donc, par le fait même, il a été d'ailleurs docteur honoris causa de plusieurs universités belges, pour dire que le contact était reconnaissant vis-à-vis de ce maître. Et on doit citer aussi son humanisme vis-à-vis de ses malades, n'est-ce pas ? Il avait un respect du malade. C'est un point qui est peut-être frappant, mais à l'heure actuelle, mais il y a 45 ans, un grand patron pouvait être un homme autoritaire. Aujourd'hui, absolument pas. Et d'ailleurs, la bonne raison, c'est qu'il s'est occupé d'enfants. N'oublions pas qu'il était pédiatre de formation, donc il avait le cœur ouvert pour l'enfant.
On a l'impression, en regardant maintenant les reportages, les entretiens, quand on peut voir les images d'archives, d'un personnage discret, mais qui fait autorité par sa discrétion, à savoir que son silence est aussi parlant que ses paroles.
C'est vrai. Discret ne voulait pas dire renfermé, parce que quand nous avions un dialogue, il donnait son idée, il la défendait, mais il n'était pas heurtant dans ses avis, ce qui nécessairement engendrait un rapport de confiance. Ce point est très important et m'a toujours été souligné par beaucoup de mes malades, que j'envoyais chez M. Jean Bernard pour un avis, et ils revenaient tous confiants parce qu'ils avaient été écoutés et ils avaient été aidés. Donc, par le fait même, on sentait chez lui une approche du malade qui était exceptionnelle.
Mais en tout cas, ne pas parler pour ne rien dire. Chaque phrase est bien pensée et réfléchie.
C'est vrai, et il avait d'ailleurs de ces phrases très typées qui fait que on voyait bien qu'il avait étudié la situation et qu'il pouvait la résumer en quelques mots, la richesse de la langue française.
Vous avez travaillé pendant près de 30 ans avec Jean Bernard, mais ensuite vous avez continué de le voir, de le rencontrer, donc vous avez dépassé la simple relation professionnelle. Étiez-vous un ami de Jean Bernard ?
C'est ça. Donc au début, j'allais, après mon stage de quelques semaines, je suis resté très en contact avec le service de Jean Bernard à l'hôpital Saint-Louis, avec lui et avec beaucoup de ses collaborateurs. Et j'y allais d'ailleurs quasi tous les mois à la séance du samedi matin, très célèbre dans le service, où il rassemblait en soi tous ses collaborateurs pour la présentation des cas cliniques de la semaine. C'était toujours très riche et c'était l'occasion ainsi de le rencontrer ou de rencontrer ses collaborateurs. Donc j'y suis allé très régulièrement. Il a quand même été chef de service à Saint-Louis jusque les années 80. Et puis les contacts se sont maintenus à d'autres occasions, entre autres lors de réunions scientifiques, de congrès, de colloques organisés par Saint-Louis ou par d'autres. Et ultérieurement, j'y suis allé plus amicalement, dirons-nous, on peut dire le mot, en particulier lorsqu'il a pris de l'âge. Chaque fois que je passais à Paris, j'allais lui rendre visite. Surtout dans les dernières années où il était moins occupé par sa vie professionnelle. Et donc, par le fait même, je sais que ça lui faisait plaisir d'avoir un contact avec ses anciens élèves. Et je pense qu'il m'a, en tous les cas, laissé l'impression d'un homme pour qui la vie qui se terminait avait quand même un certain poids. Et ce poids, je vais vous dire, il l'a résumé. « Vous savez, me dit-il, c'est très bien de vivre âgé, mais on perd ses amis. » Parce qu'il décède avant vous, ou bien la maladie les abîme. j'ai remarqué ça que, et entre autres, il a cité des noms, je peux dire entre autres Jean Delay, qui était un de ses proches amis de très longue date. Il est décédé avant lui. Et pour dire simplement que, vous voyez, la vie change. C'était un homme avec une occupation absolument extraordinaire. Il avait au moins trois vies. N'oublions pas qu'il était à l'Académie, c'était un écrivain, et il écrivait beaucoup. Il écrivait debout, d'ailleurs. N'est-ce pas ? Il
comme
m'a
Troya.
Montré son pupitre chez lui, il écrivait debout. Bon, il avait une pièce à l'arrière de son appartement, et c'est là qu'il allait écrire. Enfin, je parlais donc de son écriture. Deux, il avait la médecine, qu'il a pratiquée très, très longtemps. N'est-ce pas ? Et puis, il avait aussi tout l'aspect qu'il a créé, qui était la bioéthique. Nous allons sans doute en parler, parce que ce fut certainement une de ses préoccupations majeures pendant près de 20 ans de sa vie.
Restons sur le thème de la mort. Je crois qu'il vous avait fait part, lors de l'une de vos conversations, vous étiez en train de marcher ensemble, du décès de sa mère qui l'avait marqué.
Non seulement il le disait, mais il l'a écrit. Il a dit « La mort de ma mère est une blessure qui ne guérit pas ». Et je vais vous raconter une anecdote que j'ai vécue ici à Paris. Je le reconduisais chez lui, venant de l'Académie de médecine, parce qu'il venait à l'Académie à pied et il retournait à pied. Et voyant qu'il se levait lors d'une séance, je dis ben, « je vais vous raccompagner, maître ». Il dit « c'est très aimable ». Et nous parlions tout en marchant. Et je l'ai mis sur le sujet de la mort de sa mère. Je lui ai dit, maître, vous l'avez écrit, votre mère est décédée, ce fut pour vous marquant. Puis-je vous poser une question ? Comment est décédée votre mère ? Et il m'a raconté donc qu'elle est décédée après un troisième accouchement. Parce qu'elle avait une maladie cardiaque, qu'elle l'avait eu à la suite du rhumatisme articulaire aigu et elle est décédée suite à la grossesse. Et il m'a dit, c'est une chose inadmissible qu'on laisse mourir une personne qui avait une trentaine d'années à cause d'une grossesse. Je lui ai dit, maître, cela explique-t-il que vous auriez compris ce qu'était l'interruption volontaire de grossesse pour des raisons médicales. Et il m'a dit oui. Mais ce que j'ai gardé, c'est que l'avis de M. Jean Bernard vis-à-vis d'interruption de la grossesse restait marqué par un événement de la vie qui avait fait que sa mère était décédée des suites d'une grossesse qui n'aurait pas dû se passer. C'est lui-même qui me l'a dit. Et je me suis dit, voilà l'idée de Nietzsche, ce qui blesse le cœur s'inscrit dans la mémoire. Et je dirais même, non seulement ça s'inscrit, mais ça influence les décisions ultérieures.
D'où peut-être une des expressions de Jean Bernard qui disait que soigner, c'est aimer.
Oui. D'ailleurs, il a ressorti d'une idée de Paracelse qui se trouve sur la tombe qui se trouve à Salzbourg. Et il est dit « soigner, c'est aimer. La médecine, c'est aimer. » Et oui, et c'est bien quelqu'un qui a été, on ose le dire, un apôtre de la médecine. Il n'y a pas un aspect religieux dans mon terme, mais il s'est voué à la médecine par amour pour la recherche, oui, mais pour l'enfant, n'est-ce pas ? Pour lui, la mort d'un enfant a toujours été un événement inadmissible. Il l'a dit sous toutes ses formes, mais c'était bien la vérité. Alors, il a vu l'évolution de la médecine, il y a participé grâce à sa recherche, grâce à son implication réel de sa vie dans la médecine. Donc, par le fait même, pour lui, ça a été bien sûr un motif premier que de soigner, et il l'a fait par amour.
Jean-Louis Michaud, on marque une courte pause et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission consacrée à Jean-Bernard. À tout de suite.
Marcher sur les traces de Théodore Monod, immortel de l'Académie des sciences, à la fois anthropologue, linguiste, océanographe, géologue, botaniste et philosophe, Théodore Monod a rempli sa vie de 70 années de traversée dans le désert, alignant des distances de 900 km de marche. Récit de cette vie d'aventure avec Roger Kans dans une émission Parcours en libre téléchargement sur Canal Académie.
Suite de notre émission en compagnie de Jean-Louis Michaud avec qui nous évoquons la mémoire de Jean-Bernard à travers les souvenirs de vous, Jean-Louis Michaud. Dans cette deuxième partie d'émission, je vous propose de nous intéresser, de nous pencher sur le côté littéraire de Jean-Bernard. Alors Jean-Bernard, dès son adolescence, est un client assidu de la librairie de la poétesse Adrienne Monnier. Sa boutique est un salon littéraire permanent où se retrouvent les écrivains en vogue comme André Gide, Butler, Joyce, Romain, Jules Romain, Paul Claudel, Aragon ou encore André Breton. Vous a-t-il fait part de ses lectures, de son goût pour la littérature et peut-être même de ses rencontres avec ses écrivains?
Certainement. Et je vous dirai que dans la dernière partie de sa vie, c'était surtout la littérature qui était notre sujet de conversation. Au point même où c'était devenu un sujet primordial par rapport à la médecine. Et je me souviens en avoir parlé avec un membre de sa famille, il m'a dit « mais ça c'est une évolution compréhensible parce qu'il n'est plus en contact direct avec la médecine ». Bon, alors la littérature, oui, ça a toujours été la dualité de Jean-Bernard, n'est-ce pas, la double personnalité de Jean-Bernard, le médecin et l'écrivain. Il s'est intéressé à l'écriture de très longue date et il le disait d'ailleurs bien que dès ses premières années d'écolage, il savait écrire et lire avant d'entrer à l'école. La seule chose qu'il soulignait cependant, c'est que son écriture était toujours aussi illisible enfant que plus tard. C'était un détail, mais c'est amusant à raconter. Alors, vis-à-vis des écrivains, à ça, il avait une admiration pour les écrivains qu'il a côtoyés durant son adolescence, puisqu'il est allé chez Mounier, qu'il avait 14 ou 15 ans, je pense, quand il allait au lycée. Et c'est là d'ailleurs qu'il allait se ressourcer auprès de Madame Mounier, qui lui mettait en main les livres les plus récents et qui l'orientait très bien dans sa lecture. Il était surtout fort émerveillé vis-à-vis des grands écrivains qu'il côtoyait, mais il m'a dit qu'il n'a pas eu l'occasion beaucoup de s'entretenir avec eux. Il y avait quand même une différence d'âge et une différence de situation. Il m'a parlé de Claudel, il m'a parlé de Gide, en disant que, entre autres Gide, hein, il trouvait que c'était un homme avec un caractère très difficile et que parfois il en avait peur. Bon, ce sont peut-être des faits de détail, mais ce qu'il disait, peut-être un peu, j'ose dire méchamment, qu'à l'heure actuelle, il n'y a plus de grands écrivains. Je disais, maître, il y a quand même des gens de l'Académie que vous côtoyez qui écrivent beaucoup. Oui, mais ce ne sont plus des Claudel, ce ne sont plus des Gide, ce ne sont plus des John Perse, etc. Donc, c'est réellement des gens qui l'ont marqué. Alors, Proust aussi, n'est-ce pas? N'oublions pas, vous ne l'avez pas cité, mais Proust, ça a été une de ses lectures préférées. Et il m'a dit à plusieurs reprises qu'il a lu et relu Proust. Et il avait d'ailleurs eu une connaissance personnelle de la famille Proust. Il le citait comme tel, n'est-ce pas? Mais en disant que pour lui, Proust avait été certainement un des plus grands écrivains de la langue française. Et il soulignait, et vous voyez, il n'a pas eu même un fauteuil à l'Académie française. Et ça, il avait toujours ces phrases très précises, entre autres, oui, il aurait pu avoir un siège à l'Académie française. Il a eu le 41e.
Venons-en à cette période de l'histoire où Jean Bernard, sous l'occupation, est emprisonné à Fresnes. Et là, en fait, il a besoin aussi, lui, de trouver une échappatoire. Et il réalise, alors tout se fait dans la tête, bien sûr, puisqu'il n'y a pas de quoi écrire, il réalise des poèmes-prières, d'une part pour ceux qui souffrent et d'autre part pour ceux qui cherchent. Jean Bernard parlait-il de cette période de l'histoire, de cette période de son histoire ?
Eh bien, étonnamment, n'est-ce pas ? Il en a parlé, mais très tardivement. Très, très tardivement. Il ne l'a pas écrit avant d'avoir écrit le livre sur sa vie. En soi, nous ne savions pas cet épisode de Fresnes. Il était très, très discret et on a su que très tardivement qu'il fait partie très tôt de la résistance. Il était parmi les premiers résistants des 40 et on ne l'a su que très tardivement. Donc ça, c'était la discrétion de M. Jean Bernard pour tout et en particulier pour sa vie personnelle. Et je ne sais pas, je ne peux pas, parce que je n'en sais rien, s'il y a eu un déclic ou bien on lui a fait remarquer que c'était quand même une page importante de sa vie, celle qu'il avait menée pendant la guerre et qui a été très, très glorieuse, on peut dire, elle était très glorieuse. Alors, quant à ces 6 mois passés à Fresnes, ce fut pour lui réellement une très difficile période. Premièrement, l'isolement. L'isolement vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis aussi des responsabilités qu'on pouvait lui incriminer vis-à-vis de ce qu'il aurait fait. Trois, de cette vie difficile, puisqu'ils étaient enfermés, je crois, dans une cellule à 4 ou 5 personnes, et on n'était jamais sûr que le voisin n'était pas mis là comme un espion. Il le disait très ouvertement. Et puis, il y a aussi l'élément physique lié au pouls. On se grattait jour et nuit. Il le dit et il le répète, et aucun moyen de pouvoir s'en débarrasser. Et donc, il a raconté après son poème, la prière qu'il a écrite, n'est-ce pas ? Enfin, non, il ne l'a pas écrite. Il l'a pensée, il l'a inscrite dans sa mémoire, et à la sortie de prison, il l'a retranscrite de mémoire. Donc cette prière, qui est d'ailleurs une très belle prière, il cite le Seigneur, ce qui est un élément très marquant, parce que quand on connaît son caractère très réservé vis-à-vis de ses croyances éventuelles, n'est-ce pas qu'il le cite est quand même un élément tout à fait exceptionnel.
Pour terminer cette émission, citons quelques-uns des ouvrages de Jean Bernard. Vous disiez justement pendant cette émission qu'il avait publié de nombreux ouvrages. On ne peut pas tout citer, mais quelques-uns quand même qui ont marqué. L'homme changé par l'homme, publié en 1975. En 1981, Le sang des hommes. Et en 1987, Elame, demande Brigitte. Et puis, bien sûr, son autobiographie, Médecin dans le siècle, paru en 1994. Je recommence. Et puis, bien sûr, son autobiographie, Médecin dans le siècle, paru en 1994. Et puis, son dernier ouvrage, paru en 2004, Dans la prison que France est devenue, Mémoire de résistance, où là, effectivement, comme vous le disiez au cours de cette émission, il a pu écrire sur ce moment de l'histoire et notamment sur son emprisonnement à Fresnes.
Alors, dans toute son écriture, il y a eu un élément remarquable, n'est-ce pas ? C'est que il a parlé, bien sûr, de l'hématologie. Les titres étaient évocateurs souvent de ces problèmes hématologiques et abordables pour chacun. Donc, il a réellement rendu service à pas mal de personnes qui s'intéressaient à l'hématologie, les malades entre autres, et puis la culture médicale. C'est quelqu'un qui a veillé réellement à apporter la connaissance qu'il a acquise, parce que n'oublions pas, c'était un scientifique, il faisait partie de l'Académie des sciences, pas pour rien. N'est-ce pas? N'oublions pas que ses recherches de 1935 avaient de l'originalité. Donc, c'était un scientifique. Et il a toujours veillé à pouvoir le dire dans des mots simples. D'ailleurs, son écrit était très simple. Le sujet, le verbe, le complément. C'était un écrit limpide, mais le mot juste, la phrase bien construite, c'était un écrivain qui pouvait aborder beaucoup de sujets, et il a abordé quasi toute la médecine à travers ce qui se faisait dans son service, ce qui se faisait grâce aux contacts qu'il avait à différents niveaux de connaissances médicales, et il a abordé bien sûr tous les problèmes de bioéthique. Et ça, c'est peut-être un côté dont on ne souligne pas suffisamment l'originalité. Il a pris position sur tous les problèmes de bioéthique, grâce entre autres à sa position comme président du comité national d'éthique, n'est-ce pas ? Il a quand même été là choisi par Mitterrand pour diriger cela dès 1984 et il est resté à la direction de ce comité pendant près de 10 ans, qu'il a animé, qu'il a, avec sa sagesse, qu'il a conduit de façon remarquable. Et je connais d'ailleurs plusieurs personnes qui faisaient partie de ce comité d'éthique. Il y avait des médecins, mais il y avait des juristes, il y avait des philosophes, il y avait des sociologues, il y avait de tous les milieux. N'est-ce pas ? Il parvenait à pouvoir concilier des avis parfois extrêmement divergents. Ça, c'est sa sagesse.
Merci pour votre éclairage, Jean-Louis Michaud, et votre regard sur Jean Bernard. Merci et j'espère à une prochaine fois pour une prochaine émission, peut-être la parution d'un ouvrage prochainement.
Il aurait dit ceci, la qualité d'une interview est liée à celui qui le crée.